Vous écoutez Lille 1 Info, le magazine hebdomadaire consacré à l'université de Lille 1. Et aujourd'hui, nous allons parler du Val, le Val qui a 40 ans, du moins dans les cartons, avec M. Jacques Baudet, donc, qui est chercheur, qui est ingénieur CNRS honoraire, ingénieur honoraire, et qui est le professeur associé à M. Gabillard, qui est l'inventeur du Val. Jacques Baudet, bonjour.
Bonjour, Monsieur Laverne.
Donc voilà, le Val, c'est une aventure à laquelle vous avez contribué. Donc on va un petit peu remonter dans le temps, on va dire une quarantaine d'années en arrière, on est dans les années 70, on va dire.
Oui, c'est tout à fait exact. Dans les années 70, il y a eu l'élaboration d'une ville nouvelle dont les responsables se sont posé la question de savoir comment relier cette ville à la métropole lilloise. Je rappelle entre parenthèses qu'initialement, la ville qui s'appelle Villeneuve-d'Ascq devait s'appeler Villeneuve-en-Flandre, et c'est à la suite, en hommage à des événements qui s'étaient passés à la fin des années 44, en milieu des années 44 plutôt, que c'est devenu Villeneuve-d'Ascq. Donc en fait, l'idée des responsables était de relier cette nouvelle ville à Lille avec un transport à cadence élevée, de manière à pousser les automobilistes à faire le choix du transport en commun, plutôt que de venir s'embouteiller, si l'on peut dire, dans le centre-ville, et perdre un temps fou en recherche de parking. De là est venue l'idée de faire un transport à haute cadence.
Alors, évidemment, il y avait déjà des métros, du moins à Paris. Qu'est-ce qu'était cette originalité du Val? Qu'est-ce qu'il apportait? Il apportait en plus ou il apportait en moins? Il apportait pas de chauffeur, pas de conducteur. C'est en moins, ça, non?
Voilà, donc apparemment, il n'y a que du négatif. Mais en réalité, mettre un conducteur et respecter une cadence qui, je le signale, peut atteindre une minute et atteint aux heures de pointe une minute, était pratiquement impossible avec un conducteur, dans la mesure où l'attention d'un conducteur aurait été soumise à une telle intensité que cette personne n'aurait pas tenu sans erreur pendant une journée de travail.
Donc si j'ai bien compris, vous êtes contre les cadences infernales des conducteurs de train?
D'une manière générale, je me suis rendu compte que plus on va vite, plus on met de temps pour réparer les erreurs qu'on a faites.
Alors, quand on parle d'erreurs, justement, votre recherche, la recherche de votre laboratoire, donc celui du professeur Gabillard, c'était de trouver comment optimiser ce fonctionnement en évitant au maximum les risques, les dangers.
Oui, alors si vous voulez, à ce moment-là, il faut bien réaliser qu'un métro sans conducteur, puisqu'en fait, il y a une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, c'est que un transport en commun ayant une telle cadence ne pouvait être qu'en site qu'on appelle propre, c'est-à-dire qui lui est personnel. D'où est venue l'idée du métro et ensuite l'idée d'un métro sans conducteur. Le laboratoire, le professeur Gabillard a été sollicité donc par les responsables de l'EPAL à l'époque, qui voulait dire établissement d'aménagement de l'île Est, puisque Villeneuve-d'Ascq n'existait pas encore. Et donc le professeur Gabillard s'est orienté dans deux directions. Une première direction étant de définir un objectif de sécurité, et une deuxième direction étant de définir à l'aide de maquettes, de démontrer à l'aide de maquettes la faisabilité d'un métro automatique.
Alors, effectivement, quand on voit le métro parisien, n'importe qui peut se jeter, se projeter sur les rails, pour des raisons diverses, hein, ou bousculer, tout simplement. Là, on a sécurisé ce métro du Val.
Eh bien, en fait, si vous voulez, vous avez tout à fait raison. Le professeur Gabillard a essayé de faire une recherche théorique sur l'objectif de sécurité. Il est parti d'une manière totalement, professorale, c'est-à-dire sur le plan théorique, quel est le système le plus sûr. Il est arrivé à la conclusion qu'un système de transport tout à fait sûr était un système à l'arrêt en bas d'une descente. Donc, en fait, c'était totalement irréaliste. Donc, il a pris une autre orientation qui était de se dire, on va prendre comme référence un métro qui fonctionne pas si mal que ça, le métro parisien, et essayons de voir quelle est la cause principale de mortalité. Et c'était effectivement les personnes qui tombaient sur la voie pour une raison ou pour une autre. Ceci a amené l'idée de mettre des portes palières qui évitent effectivement ce genre d'accident.
Donc ces portes palières, elles se détectent à quel moment du processus ?
Mais en fait, au moment de l'arrivée en station, il y a des balises de détection d'arrivée de rame. Et quand la rame est positionnée à environ quelques 10 à 20 cm près, les portes s'ouvrent.
Alors, actuellement, on utilise beaucoup les capteurs dans les spectacles, dans pas mal de situations. Ces capteurs-là, ils fonctionnaient déjà à cette époque-là ? Il y avait cette idée de capteurs ?
Oh oui, tout à fait, sans problème.
Donc, est-ce que le métro lillois était un prototype destiné à être après diffusé, reproduit, calqué pour d'autres pays, d'autres villes ? Ou est-ce qu'il était un aboutissement, à l'époque, pas forcément avec une suite à donner ?
Votre deuxième hypothèse est tout à fait bonne, parce qu'en fait, au départ, le concept d'un métro automatique, donc sans conducteur, n'existait pas, dans la mesure où la législation française tout simplement l'interdisait. Il était inconcevable qu'il y ait un système de transport en commun sans conducteur. Donc il a fallu démontrer, et ça a été fait dans notre laboratoire de l'USTL au bâtiment P3, à l'aide de 4 maquettes successives, que cette idée était viable. Alors, il y a eu une première maquette qui démontra la possibilité d'avoir une régulation de vitesse, par exemple ralentir dans les courbes, s'arrêter vraiment juste devant les stations, parce que le fait d'avoir des portes palières implique que l'arrêt en station est une précision extrême. Cela a été donc le sujet de la première maquette. La deuxième maquette était beaucoup plus spectaculaire, elle faisait une centaine de mètres de voie, comportait 3 rames, plusieurs stations et un garage. Donc en fait, on avait toute la réplique de ce que serait éventuellement un métro avec le garage pour stocker les rames inutilisées, les stations. Ça impliquait le maintien de l'espacement, des convois, etc. Cette maquette a beaucoup servi, en particulier pour des démonstrations auprès d'hommes politiques, d'industriels, de délégations étrangères, etc. Et une troisième maquette qui a plus servi pour les expositions, mais qui là reprenait, parce que les deux premières maquettes étaient sur rail, tandis que la troisième maquette prenait la technique du métro, c'est-à-dire avec sur pneus et rails de guidage. Et la quatrième maquette présentait les possibilités de marche arrière, du moins d'aller-retour. J'ai oublié effectivement de dire que les trois premières maquettes faisaient des boucles. Donc en fait, le métro tournait toujours dans le même sens, alors que la quatrième maquette, elle, présentait le métro tel qu'il est dans sa version actuelle, c'est-à-dire avec des possibilités de retour, de manière à éviter les grandes dimensions occupées par une boucle.
Effectivement, ça c'est quelque chose qui nous échappe un peu. Quand on arrive au terminus, on va dire par exemple 4 cantons, qu'est-ce que devient ce train ?
Il y a deux solutions. Il va soit au garage atelier pour parce qu'il a fini sa journée de travail, s'il a été injecté au moment d'une pointe, ou pour la maintenance. Il ne faut pas oublier quand même que les rames ont besoin d'une certaine maintenance et que la maintenance est parfaitement programmée de manière à ce que toutes les rames ne soient pas en maintenance au même moment, donc de manière à étaler les maintenances. ou bien alors elle repart dans l'autre direction à l'aide d'aiguillages qui se trouvent à l'extrémité de la ligne, et que l'on rencontre aussi d'ailleurs à un certain nombre d'endroits de la voie, de manière qu'en cas de gros problème, un service minimum puisse être assuré.
Alors, quand on arrive dans la station, dans une station, bon, on voit bien un train qui arrive, un train qui part de l'autre côté. On ne s'imagine pas le nombre de trains en fait qui circulent. On peut avoir une idée. Bon, bien sûr, il y a des cadences. Parfois, c'est toutes les minutes. Parfois, les 3-4 minutes de décalage. Mais ça représente en fait au maximum d'usage intensif, on va dire, combien de trains?
Ben écoutez, le nombre de rames, alors je pourrais peut-être dire un petit mot après sur l'évolution, mais le nombre de rames dites simples, c'est-à-dire comportant deux véhicules, ces rames font 26 mètres, est de 143. En fait, il y en a 143. Mm-hmm. Et si on fait un calcul, sachant qu'il y a 40, que je parle de la ligne 1 et 2 à la fois, cumulées, les deux lignes font 45 km et représentent une soixantaine de stations. Si on tient compte que la vitesse commerciale, c'est-à-dire la vitesse du métro en tenant compte des arrêts, est de l'ordre de 35 km à l'heure, on a vite fait le calcul qu'il faut environ plus d'une centaine de rames en service simultanément.
Donc, oui. On voit aussi que les quais sont beaucoup plus longs que les rames de deux wagons. Alors comment ça se passe ?
Ben, c'est une très bonne question, parce que dès le début, il faut voir que les précurseurs, en particulier le professeur Gabillard et Albert Notbach, qui étaient responsables de la communauté urbaine, pensaient, désiraient et imaginaient que le métro l'acte deux fois que le métro aurait un succès, imaginerait que les capacités actuelles ne seraient insuffisantes. Et donc, en fait, les stations n'ont pas une longueur bizarre. Elles sont tout simplement doubles de la longueur d'une rame, de manière à ce qu'elles puissent être équipées pour une deuxième rame. Donc, en fait, il y aurait, pour composer une rame entière, deux rames actuelles. Et donc, on aurait un système de 52 mètres à 4 voitures.
Et ces rames, elles peuvent circuler dans les deux sens sans problème? Elles sont inversibles, on va dire, réversibles?
Oui, aux extrémités. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Une rame arrivant, par exemple, aux quatre cantons, partira, si on peut dire, en marche arrière, mais comme elles n'ont pas de sens, elle repartira dans l'autre sens. Mmh. Et grâce à un aiguillage, reprendra la voie et repartira sur l'autre voie pour retourner vers le CHR.
Alors, qu'est-ce qui a changé, Jacques Baudet, entre le moment où il était conçu sur maquette et le moment où il était mis en service, et après, juste après, il y a eu une période de rodage peut-être? Est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont dû être faites, et pourquoi?
Bon, écoutez, je ne voudrais pas parler de ce que je ne connais pas exactement. Pour nous, universitaires, il faut bien voir que notre objectif et notre rôle était de démontrer qu'un système de transport en commun sans conducteur était faisable, qu'il était en sécurité, et ensuite le système, le bébé, disons, a été proposé à Matra Transport, qui était chargé, lui, d'en être le maître d'œuvre. Donc, votre question est tout à fait sûre, il y a eu des changements. Ne serait-ce que la première ligne d'essai à grandeur réelle était elle aussi en boucle. Et ensuite a été introduit le système d'inversion de marche aux extrémités. Donc il y a eu des adaptations, il y a eu des évolutions, il y a même eu des évolutions des normes dans les transports publics qui ont apporté des modifications. Mais ça, à partir du moment où c'est passé dans le domaine industriel, ce n'était plus tellement notre sort. Par contre, je dois quand même dire que notre équipe a été sollicitée périodiquement pour des points ponctuels. Je pourrais parler des portes, je pourrais parler du système d'évacuation d'urgence qui a été modifié par l'Union internationale des transports publics. Et sans compter en plus que le professeur Gabillard a eu une très grosse contribution sur le suivi du métro.
Donc vous parliez d'applications industrielles, de développement. C'est basé au départ sur un brevet qui existe. Il appartient à quelqu'un. Comment ça fonctionne?
Eh bien, le professeur Gabillard, il y a eu un brevet qui a été pris à ce propos. Mais le professeur Gabillard a, à ma connaissance, refusé que ce soit pris à son nom. Et ça a été, je ne peux pas dire à quel organisme ça a été remis, mais pas au professeur Gabillard qui a voulu vraiment en faire don, j'allais dire, probablement à la ville, quoi, ou à l'administration.
Comment a été perçu ce projet dans la communauté scientifique ?
Ben, disons que c'est un peu lié à la personnalité de professeur Gabillard, qui est une personnalité très atypique. Donc en fait, on savait que de toute façon, il faisait des recherches de très haut niveau et très adaptées. Mais disons que, bon, c'était un peu le petit train au départ, quoi. Mais disons que maintenant que les gens le prennent, s'en servent fréquemment, ce n'est plus du tout une question de risée, la risée de la communauté, mais c'est vraiment pris très au sérieux. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a environ un mois, il y a une cérémonie très importante à l'espace culture où il y avait environ 180 personnes et que des personnalités industrielles ou de la communauté urbaine, etc., qui étaient là pour en hommage à ce qu'on dit le père Duval.
Jacques Bonnet, est-ce que vous pouvez préciser votre rôle dans cette équipe, si elle était nombreuse, comment ça fonctionnait en interne ?
Oui, alors ça me fait plaisir que vous posiez cette question, parce qu'en fait, souvent on parle des responsables, et tout à l'heure, en introduction de cette émission, vous avez dit que j'étais le collègue du professeur Gabillard, c'était un bien grand honneur qui m'était fait, disant que j'étais collaborateur du professeur Gabillard. Il y a bien peu de personnes qui puissent se dire collègue de même niveau que cette personne. Et par contre, le professeur Gabillard avait un certain nombre de collaborateurs, et je préfère ce terme. Et alors, si je peux dire quelques mots, je peux même en citer quelques-uns, parce que en fait, ils sont tous passés dans notre équipe. Il y a eu Jean-Pierre Lestampe, Jean-Pierre Vervac, Christian Van Bromer, Jean-François Daluin, Paul Mangès, Boran, qui me reviennent, Pascal Deloff. Et toutes ces personnes, ce qui est symptomatique et assez rare maintenant, ont commencé au laboratoire après un an ou deux de travail en laboratoire d'électronique, ont continué leur activité d'abord au laboratoire sur le Val, sur les maquettes, puis ensuite sont passés chez Matra, et le Matra Transport étant repris par Siemens Transportation, ont continué leur carrière, et la plupart y sont toujours s'ils ne sont pas à la retraite. Je pense en particulier à Jean-Pierre Lestand, qui est à la retraite et dont la dernière activité a été de mettre au point le Val Roissy, qui dessert plusieurs terminaux. Donc en fait, ce sont toujours des équipes initiales qui ont fait toute leur carrière sur le Val et qui ont maintenu au fur et à mesure des réalisations les mêmes concepts, avec évidemment l'évolution technologique de l'époque.
Alors, si on considère la situation et le développement de ce Val, de ce concept, on peut retrouver ce système dans quel pays, dans quelle grande ville par exemple ?
Alors, vous en avez en France, bon, le plus important c'est Toulouse, puisqu'ils ont deux lignes aussi. Il y a Rennes qui a une ligne et pense à une deuxième ligne très sérieusement. Vous avez le Orlyval qui est bien connu. Maintenant, vous en avez un à Roissy, mais dans l'aéroport. Vous avez Taipei. Vous devez avoir aussi Milan à l'étranger. J'ai moi en tête les villes, mais je crois aussi à l'aéroport de Chicago.
Est-ce que ces recherches qui ont été faites à l'époque intéressent encore aujourd'hui des jeunes chercheurs ou des étudiants qui se replongent dans l'histoire et dans l'évolution technologique ?
Ben, actuellement, si vous voulez, y a plusieurs principes. Si vous voulez, depuis 40 ans que l'on travaille sur un système automatique, la technologie a évolué. Et il y a eu d'autres concepts, en particulier la ligne 14 Météor à Paris est basée sur un autre concept de sécurité, une sécurité statistique, alors que je rappelle que dans le Val, la sécurité est dite intrinsèque, c'est-à-dire qu'en particulier toute la chaîne de contrôle de vitesse est en sécurité intrinsèque. Bon, il y a d'autres concepts de sécurité, qu'on appelle sécurité statistique, comme Météor. Donc, disons que bon, on choisit soit la technologie VAL, auquel cas les circuits de base sont conservés, ou bien alors d'autres systèmes. Et maintenant, il commence même à y avoir pas mal de concurrence.
Donc, ce principe du VAL, il était adapté plutôt à des villes moyennes ou à des grandes mégapoles, on va dire ?
Vous avez tout à fait raison de poser cette question parce que initialement, le Val, ce qui paraît évident, vous voulez dire Villeneuve-d'Ascq-Lille, quand ensuite Matra a voulu le vendre à d'autres villes, il est devenu véhicule léger automatique. Et en fait, si on reprend le départ, Le Val est relativement étroit. C'est un petit module, en fait. Pourquoi ? Parce que tout au début, dans la tête, j'allais dire, des élaborateurs de la ville nouvelle, l'idée était que le Val soit en aérien, donc qu'il puisse s'inscrire dans les rues des villes. Bon, après, évidemment, il y a eu une opposition, de sorte que le Val, en milieu urbain, a été enterré. Mais disons qu'au départ, il devait être en aérien, comme il l'est sur le campus de l'Université Lyon ou sur, au niveau du CHR, par exemple, ou sur Villeneuve-d'Ascq aussi.
Donc ce Val, une fois qu'il a été conçu, élaboré, il a été mis en service en quelle année ?
En 1983.
Donc depuis 1983, il fonctionne, tout le monde en semble satisfait ?
A priori, oui.
Quand vous voyez de nouvelles lignes, comme la ligne 2, tout ça, ça vous émeut un peu ou pas ?
Oh ben oui, ça fait plaisir, surtout qu'à son époque, la ligne 2 était la plus longue ligne de métro automatique du monde.
Donc ce train raccourcit bien sûr la distance pour les personnes qui prennent leur voiture, ça va quand même plus vite en Val.
Oui, alors, à titre d'exemple, par exemple, entre le Triolo et le centre-ville, soit la gare, soit Riour, environ un quart d'heure. Et quand vous arrivez à Riour, vous n'avez pas à chercher de parking, ou même si vous trouviez une place, ce serait avec un procès à la clé, et faire Villeneuve-d'Ascq-Lille en un quart d'heure en voiture, il faut que ce soit dégagé.
Oui. Il faut surtout se garer.
Exactement. Donc, en fait, d'où le parking, par exemple, du 4 Cantons, et c'est peut-être là où il y a un manque. C'est qu'il manque peut-être un peu de parking. Mais sinon, le métro vous amène en centre-ville en un quart d'heure.
Donc, en cette époque, des années 70, on ne parlait pas de développement durable. Pourtant, on était déjà dans le concept.
Tout à fait. Et j'étais assez vexé d'ailleurs une époque où il y avait certains mouvements qui étaient contre le Val, et en particulier un professeur d'université qui était président d'une association contre le Val sur le plan esthétique et du bruit. Alors l'esthétique, on peut toujours... ça dépend des goûts de chacun, quoi. Mais il faut voir que le Val en aérien, la nuit, ça, c'est quand même pas mal. Et puis le bruit, ben, quand vous avez une voiture dont le pot d'échappement est un peu en mauvais état, qui passe avec une personne à bord, et que vous avez une rampe qui passe avec 150 personnes à bord, il n'y a pas de relation.
Alors c'est vrai qu'à un moment donné, la tour Eiffel était aussi critiquée avant sa construction, et même certains voulaient la raser dès la fin de l'exposition universelle.
Tout à fait, alors ça, c'est absolument certain. D'ailleurs, il n'était pas prévu qu'elle soit maintenue.
Alors, pour conclure cette émission, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs ?
À quel point de vue, sur le plan du Val, sur le plan du professeur Gabillard ou sur...
Alors, je vous laisse libre arbitre. Vous pouvez aussi parler de ce que vous pensez de la société, de ce développement technologique qui est quand même maintenant, j'allais dire, qui, bon, je ne sais pas si vous le jugez, qu'il s'emballe ou pas, à vous de voir.
Bon, bah, si je peux me permettre, alors j'aurai deux réponses à votre question. L'une concernant le professeur Gabillard, dont j'ai peu pu parler pendant cette présentation. Le professeur Gabillard est un chercheur atypique, solitaire, et qui est d'une très grande concentration et très très travailleur. Je me souviens une fois qu'il avait été hospitalisé pour une courte durée et qu'il avait eu une permission, et que sa femme me disait « Savez-vous où il m'a conduit ?» Je lui ai répondu « Oui, au laboratoire », et elle a acquiescé. Donc c'était un travailleur complet qui, quand il avait un nouveau sujet à traiter, le prenait du début à partir d'une grande recherche bibliographique, ce que ne font plus tellement les personnes, et ensuite le traitait entièrement. Et c'était aussi un homme de terrain dans la mesure où, au moins une fois par projet, il venait sur le terrain pour voir comment ça se comportait, ce qui est rare chez les chercheurs. Alors maintenant, sur le plan de l'évolution de la société, ben je pense qu'une société qui n'avance pas ne peut que reculer. Donc je crois que personnellement, ma philosophie est de prendre ce que la recherche trouve, mais de le prendre pour le mieux de l'humanité.
Jacques Baudet, je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur Lavanne.